Alors nous avons vu déjà hier soir la puissance hier matin, je suis perdu, c'était hier matin. Ouais. La puissance qui régit l'argent mammon. Nous avons vu hier après-midi l'attitude qui s'oppose à mammon, Dieu d'abord. Et ce matin, j'aimerais donc m'arrêter sur l'attitude qui honore Dieu, à savoir le contentement. Et j'aimerais lire ces trois textes. Dans 1 Timothée 6, à partir du verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Texte que j'ai lu déjà, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Un deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et enfin, un dernier passage sur lequel je m'arrêterai un peu plus longuement après, dans les Philippiens, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. L'apôtre Paul, dans ce texte des Philippiens, en fait, montre et explique, ou en tout cas nous fait comprendre, combien dans ses besoins, l'Église de Philippe a pu l'encourager et l'aider matériellement. Et c'est la seule fois où l'apôtre Paul a accepté un don matériel de la part d'une église ou d'un groupe de maisons qu'il avait créé. Aucune autre église, et Paul se fait fort et fier de dire « je n'ai pas été dépendant des uns et des autres ». Mais en fait, avec l'Église de Philippe, il avait une relation peut-être un peu plus privilégiée qu'avec d'autres communautés. Et les Philippiens ont été poussés à l'aider, à soutenir son ministère. Et il passait par une période difficile. Donc Paul accepte leur don, ce qui ne sera pas le cas, ou en tout cas des autres communautés. Donc c'était pour mettre un petit peu le contexte de ce texte de Philippiens, où quand même il rappelle, et je vais y venir, qu'il a appris à être content, quel que soit son état. J'ai déjà un petit peu parlé lors de notre première rencontre par rapport à mammon et au monde et au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et on peut préciser quand même que notre vie aujourd'hui moderne exige beaucoup. Beaucoup plus qu'il y a 50 ans en arrière, par exemple. Les découvertes technologiques de ces 20 dernières années, si elles apportent un grand confort, sont aussi de véritables sources de tentations extrêmes et nous donnent des occasions de dépenser ou d'avoir envie de dépenser, peut-être, j'allais dire, à outrance. Nous sommes plus dans la résistance dans ce monde moderne, à goûter à tout, plutôt que dans l'acceptation de vivre en fonction de nos ressources et de nos vrais besoins. Et c'est là qu'on sent qu'il y a une puissance derrière qui pousse à la consommation, et nous appelons cette société « société de consommation », ce qui est une réalité. Qui ne souhaite pas posséder l'ordinateur dernier cri, la voiture dernier cri, etc., etc. Et quand on voit les panneaux publicitaires, quand nous sommes abreuvés, pour ne pas dire inondés de ces publicités, on allume notre ordinateur pour faire un travail, et voilà qu'une publicité sur Internet arrive sous nos yeux alors qu'on n'a rien demandé. Hein, on est dans ce monde-là et il faut y faire attention. Quand l'apôtre Paul écrit donc « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve », eh bien, sa situation, quand il écrit aux Philippiens, n'est pas enviable du tout. Il est dans une situation précaire. L'apôtre est dans les chaînes, en prison, et sa situation va bientôt être débattue. Il va soit mourir persécuté, soit être relâché. Et c'est une des dernières épîtres que Paul va écrire, la plus tardive, parce qu'il est prisonnier à Rome, et il écrit encore, et il soutient encore ces églises qu'il a fondées. Son sort va bientôt se jouer. On peut imaginer, peut-être, en tant qu'être humain, l'angoisse qu'il peut y avoir aussi dans le cœur de Paul, qui quand même, avec son cœur humain, eh bien, sait que d'un côté ou de l'autre, ça va basculer. Quand on a vécu ces drames la semaine passée, de cet homme arrêté, égorgé et décapité par l'État islamique, qui attendait son sort, on peut imaginer aussi l'angoisse qu'il pouvait lui avoir dans son cœur. Qu'est-ce qui va se passer, en sachant pertinemment que l'issue était quasiment déjà préparée. Et Paul, dans cette lettre aux Philippiens, précise que, quelque part, c'est dramatique pour lui parce qu'il est tout seul. Il dit « Je n'ai personne qui partage mes sentiments », chapitre 2. « Je suis isolé ». Et il ne se plaint pas, malgré cette situation. Pourquoi est-il en paix? Peut-être même heureux malgré les circonstances. Eh bien parce qu'il avait vécu réellement jusqu'à ce jour-là le Dieu d'abord. Christ était sa vie. Et Bob a mentionné ce que dit Paul en disant « J'ai tout laissé pour Christ. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Il a supporté tout cela, il a aussi regardé argent, confort, honneur comme de la boue, comme quelque chose à mettre de côté, à ne pas prendre. C'est pourquoi l'attitude qui honore Dieu, c'est bien le contentement. Vous noterez qu'il précise « j'ai appris ». J'ai appris à être content, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans la disette. J'aime beaucoup ce verbe-là, apprendre, parce que par définition, apprendre est un apprentissage. C'est-à-dire que on a du temps et il faut du temps pour apprendre. Ça vient pas tout seul. On n'est pas la maturité spirituelle s'acquiert au fil du temps. On ne peut pas être mûr du jour au lendemain. Toutes les expériences passées, qu'elles aient été pour Paul bonnes ou moins bonnes, ont appris à l'apôtre à être content. Tout simplement parce qu'il a pu aussi, tout au long de ses années et ses expériences, contempler la bonté de Dieu, contempler la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, quand bien même il a passé par des moments dramatiques dans sa vie. On l'a quand même laissé pour mort un jour par la lapidation. Donc vous imaginez un petit peu la situation aussi. Après avoir reçu toutes ces pierres sur la tête, Paul était là, par terre, gisant, ensanglanté, et on l'a laissé comme ça. On s'est dit, c'est bon, ça y est, c'est fini, on ne parlera plus de Paul. Et pourtant, il s'est relevé. Donc, c'est des situations où il a appris à avoir la main de Dieu sur lui. « Je puis tout, écrit-il aux Philippiens, par celui qui me fortifie. » Il est bon en effet de savoir aussi regarder en arrière. Est-ce que parfois nous arrivons à faire et à prendre ce temps pour savoir tout ce que Dieu a fait pour nous, quel que soit notre âge d'ailleurs, quelle que soit notre année ou nos années de conversion, s'arrêter et regarder un petit peu en arrière. Non pas pour regretter quoi que ce soit, non pas par un esprit nostalgique, mais en même temps pour voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Mon âme bénit l'Éternel, écrit le psalmiste, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, la première chose que nous apprenons à nos enfants, c'est à dire quoi? Merci.
Merci.
Oui. Hein? J'ai rien entendu. Merci. Hein? Eh bien, en fait, on est dans ce même principe avec le Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Peut-être aussi merci pour ce que tu n'as pas fait et que j'aurais aimé que tu fasses. Mais avec le temps, je me rends compte que finalement, c'est bien que tu ne l'aies pas fait finalement. Parce que peut-être j'aurais été dans une mauvaise position ou dans une mauvaise ou dans une tentation. Il est bon de savoir donc regarder en arrière. En même temps, quand on regarde en arrière, on se pose la question, est-ce qu'il nous est arrivé un jour de réellement manquer du nécessaire? Avons-nous été jusqu'à cette extrémité-là? Personnellement, non. Mais peut-être que vous, oui, je ne sais. Et comment les choses se sont passées alors à ce moment-là? Avons-nous été contents? Nous sommes-nous contentés de ce que nous avions, même si c'était peu? La foi était-elle assez forte pour que nous puissions voir Dieu même à travers les moments difficiles? Ceci dit donc, à ce stade de notre réflexion, il me semble important de préciser ce que je n'ai pas encore un petit peu précisé ou développé hier après-midi par rapport à ce que j'ai appelé l'évangile de prospérité que nous entendons un petit peu ça et là et sur laquelle il faut quand même faire un petit point. J'ai déjà fait comprendre que cet évangile de prospérité qui est annoncé dans certains milieux ecclésiastiques est pour moi un faux évangile, donc une erreur, un leurre. Ce faux évangile, cet évangile de prospérité qui martèle quoi? Théologie, le chrétien doit posséder des richesses financières, le chrétien doit être bien portant, donc physiquement et matériellement, parce que comme ça, c'est une preuve que Dieu est fidèle. C'est une preuve qu'il est sous la bénédiction de Dieu. Donc un chrétien doit être riche et un chrétien doit être bien portant. Voilà l'évangile de prospérité. Alors on va tout faire pour que les choses soient ainsi. Slogan, dans le domaine de l'argent en particulier, puisque c'est le thème de notre week-end, donner pour recevoir. Plus vous donnerez de l'argent, et plus Dieu va vous bénir. C'est une promesse qu'il vous fait. Mais je le répète, ce n'est pas le texte de l'évangile. Absolument pas. Cette pensée va à l'encontre de la pensée de Dieu et du témoignage même de l'apôtre qui alimente à ce titre, lorsque nous sommes dans cet esprit-là, des motivations qui sont des motivations égoïstes. Je donne pour recevoir. Ou en tout cas, on me dit de donner parce que je vais être enrichi suite à ce que je donne. Si l'apôtre Paul écrit « Celui qui moissonne peu » celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. J'ai cité ce verset hier après-midi en montrant bien que ce verset était dans un contexte exceptionnel et particulier de ce don que les églises de Corinthe et de Macédoine faisaient pour Jérusalem. En aucun cas, ce verset peut être pris comme un prétexte d'encourager à donner pour recevoir. Mais en même temps, Paul dit, si vous ne donnez pas, forcément aussi, Dieu ne donnera pas. Mais vous ne devez pas donner pour recevoir. Vous devez donner parce que vous avez reçu. Et c'est dans ce contexte que Paul dit aux Corinthiens, votre superflu pourvoira aux besoins des autres. C'est parce que vous avez reçu que vous pouvez donner. Mais vous ne donnez pas pour recevoir. Votre motivation n'est pas là. Et je crois qu'il faut faire attention à mettre bien les choses à leur place. Alors, la nature humaine, nous le savons, est déjà foncièrement égocentrique. Si dans l'Église, on enseigne aux croyants comment recevoir encore plus pour satisfaire tous leurs désirs personnels, où va-t-on? Ce n'est pas du tout le message, une fois de plus, que le Seigneur veut nous adresser. Le chemin de la vraie bénédiction passe par le recevoir pour donner. C'est-à-dire, j'attends, je laisse Dieu me donner ce qu'il veut, et une fois que j'ai reçu, et là, on revient sur ce que j'ai dit hier après-midi, dans la libéralité, dans la liberté, je vais donner. mais je ne vais jamais donner en faisant une pression à Dieu. Personne ne fera de pression à Dieu de toute façon. Hein. En disant, tu vois, Seigneur, je donne, alors il faudrait bien que tu me donnes aussi en retour. Mets-moi sur mon dossier sur le haut de ta pile, hein, pour que je puisse avoir tout de suite quelque chose de plus. Non, ce n'est pas l'évangile. Si nous sommes prêts à pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit, dans la mesure de nos moyens, nous pouvons être alors assurés que Dieu s'occupera aussi de nos propres intérêts. Mais il le fera comme il l'entend. Lorsque le sarment reçoit la vie du cep dans Jean 15, il ne peut faire autre chose que de donner. On est dans la même pensée. Nous recevons de Dieu quelque chose, eh bien, il coule au-dedans de nous ce trop-plein quelque part qui va ressortir, soit par des paroles, soit par nos biens matériels. Ce que nous recevons, Dieu nous demande aussi d'en redonner. Donc attention à ce que les mobiles qui nous poussent à donner soient purs. C'est important. C'est pourquoi il est impossible de connaître une joie débordante en étant animé par une mauvaise motivation lorsque nous faisons un don. Et c'est pour ça que Paul l'a rappelé hier, je veux que vous donniez avec joie. C'est ça votre but. Que vous soyez encouragés et que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur. Nous ne devrions jamais donner, donc, en essayant de forcer la main de Dieu à faire quelque chose en retour. Même si nous savons, et je le répète, que Dieu va aussi pourvoir à nos besoins. Mais il ne va pas forcément nous enrichir, ce n'est pas forcément son but. Vous avez reçu gratuitement, dit la parole de Dieu, donnez gratuitement, sans essayer de chercher quelque chose en retour. Ne cherchons donc pas à donner pour recevoir, mais bien plutôt à recevoir dans le but de donner. Et c'est là qu'on n'est plus dans l'égoïsme. Seigneur, tu m'as béni, alors je peux aussi moi donner, je peux aussi partager. Et je sais que tu me béniras aussi d'une autre façon, parce que tu y restes fidèle. C'est ainsi que nous pouvons vivre cette parole de l'Écriture que j'ai citée hier après-midi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et peut-être que vous avez vécu cette expérience. Et c'est vrai, quand on donne et qu'on peut donner, quelle joie et quelle bénédiction. Alors, avançons un petit peu et essayons de voir quels sont les pièges qui sont au contentement. Et je vois en fait deux pièges essentiels au contentement. Le premier piège, c'est la convoitise. La convoitise s'oppose au contentement. Et le principe de donner pour recevoir, prôné par l'évangile de prospérité, en fait, nourrit cette convoitise. Elle est cette soif, cette convoitise intarissable de posséder des biens que nous estimons avoir besoin pour être justement pleinement satisfaits. Et je le répète, cette société dans laquelle nous sommes, où Dieu Mammon règne, alimente cette convoitise et nous met sous les yeux des situations que nous pensons être les meilleures pour nous, dont nous voulons posséder. Et nous n'avons pas forcément les moyens de le faire. Dans notre désir charnel d'avoir toujours plus, bien souvent, nous perdons de vue ce que nous possédons déjà. Et nous n'avons même pas la possibilité, ou nous oublions Dieu, ou en tout cas de remercier Dieu pour ce que nous avons. Et ce que nous avons nous suffit, bien souvent. Beaucoup se comportent peut-être un peu comme cette domestique un jour qui était au service de cet homme. Et un jour, cet homme, son maître, entend la jeune fille râler un petit peu à haute voix. « Ah, si j'avais 5 euros, je serais tellement contente, je pourrais faire ceci, acheter cela. » Alors cet homme s'approche de la servante et lui donne 5 euros. Toute surprise, elle accepte bien évidemment et le remercie et repart. Et repart en pensant dans son esprit, « Oh, si j'avais pensé 10 euros, peut-être qu'il m'en aurait donné 10. » On pourrait dire « jamais content ». Et pourtant, toujours plus. La convoitise est le péché d'un monde impie, d'une société qui a tourné le dos à Dieu et à ses lois. Aujourd'hui, je l'ai dit, cette société de consommation stimule grandement la convoitise. Et quand je parlais hier après-midi, je ne sais pas si vous vous rappelez des racines qui sont de maman, sous-entendu, en tout cas cachées. Et ces racines, il y avait entre autres le mensonge, le vol, etc. Tout ce qui pousse en fait à posséder et qui nous amène à des situations de ce style. Eh bien, la publicité a une racine de mensonge. Et il ne faut pas se leurrer. Elle se pare de ses plus beaux habits pour attirer l'œil et susciter l'envie, à travers aussi le mensonge. La convoitise a mis des milliers de personnes dans un surendettement dramatique. C'est terrible d'être tenté et de se laisser tenter par justement des images et des paroles et des textes mensongers. Tout cela pour consommer. Et on y voit ici sans peine l'œuvre du diable qui enchaîne à ce Dieu mammon. Est-il besoin de rappeler le dernier des commandements cités dans Exode 20 ? Vous connaissez ? Quel est le dernier commandement ? Exode 20 : tu ne convoiteras pas. Et il est expliqué et parlé de plusieurs choses. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Alors on va actualiser, ni sa voiture, ni son bateau, ni son vélo, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parce que la convoitise, bien évidemment, peut te pousser au vol et peut te pousser aussi à vouloir être comme lui, mais peut-être que tu n'en as pas les moyens. Et c'est là qui est pernicieux aussi, dans un monde où on nous pousse à cela. L'apôtre Pierre, en parlant de convoitise, j'aime énormément ce texte, nous dit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 11, ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, poursuit-il, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La situation des chrétiens est clairement définie ici et c'est une situation que Satan aime à nous faire oublier. La situation est claire et la suivante, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Puissions-nous graver ça dans notre esprit ? En fait, nous campons. Ah oui, nous avons des campements qui sont sophistiqués, qui sont de pierre, bien sûr. Mais nous ne sommes que des campeurs. Ce qui laisse sous-entendre, bien sûr, que nous avons une demeure principale qui est ailleurs. Ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre, amassez-vous les trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne dérobent et ne cassent pas, etc., disait Jésus. Où est notre trésor ? Où est notre demeure principale ? À quoi pensons-nous ? À quelle demeure pensons-nous ? Sommes-nous si détachés de ce monde et attachés au ciel ? Ou sommes-nous attachés à ce monde et détachés du ciel ? Alors bien sûr, il faut être quand même logique et sage. Nous avons la tête au ciel, certes, parce que nous sommes avec Christ, le Saint-Esprit habite en nous, certes. Mais nous avons aussi des pieds sur terre. Il ne faut pas penser que tout est beau, tout est rose, etc. Non, il y a des difficultés. Il faut vivre aussi avec les difficultés. Jésus dit, je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est bien ce que l'apôtre Pierre dit. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Mais vous êtes sur terre. Mais en même temps, votre pensée est ailleurs. Vous ne vous attachez pas parce que vous êtes des étrangers, parce que vous voyagez. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit une chose intéressante à propos de cette focalisation du ciel. où il dit au chapitre 1, après avoir loué les Thessaloniciens par leur témoignage, en leur disant vous êtes devenus des modèles pour tous les environs là où vous habitez les uns et les autres, voici ce qu'il dit. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, vous Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et il précise qu'est-ce qu'a été ensuite les conséquences de leur conversion. Littéralement signifie demi-tour. Vous avez changé de comportement. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes convertis à Dieu? Il dit, vous avez abandonné les idoles. Donc ça, ça a été pour vous quelque chose de clair. Vous vous êtes détourné, vous avez aimé Dieu et rejeté les idoles. Et ô combien il y avait des idoles à la ville de Thessalonique à cette époque. Vous avez servi Dieu le vivant, c'est-à-dire pour servir le Dieu vivant. Donc en fait, vous vous êtes mis à dire, maintenant je sers Dieu au lieu de servir mes idoles. Donc je m'engage à lui faire plaisir, à le craindre, etc. C'est bien ce que nous avons fait aussi quand nous sommes convertis. Nous avons abandonné notre péché. Nous avons dit, Seigneur, je veux te servir, je veux t'obéir. Et la troisième conséquence, et on oublie celle-là, de la conversion, et Paul le dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc en fait, il dit, mais vous êtes aussi dans l'attente de la demeure principale que Dieu vous a promis, le ciel. Et souvent, dans la conversion, ben oui, on se coupe du péché, on sert Christ, mais on le sert, ok. Mais est-ce que notre pensée est focalisée sur Jésus qui vient? Est-ce que notre pensée est focalisée sur le royaume de Dieu qui vient? Parce que si nous focalisons notre attention sur ça, alors oui, nous réalisons que nous sommes vraiment des étrangers et des voyageurs. Alors oui, peut-être nous pouvons ainsi être aidés dans la convoitise, parce que nous n'emporterons rien, on l'a déjà dit. Et Paul peut le dire, Christ est ma vie. Mourir est un gain. Dieu d'abord. Est-ce que nous attendons le Christ? Est-ce que nous nous levons le matin en disant, Seigneur, tu n'es pas revenu cette nuit. Tu n'es pas venu nous chercher. Est-ce que nous pensons le soir en nous couchant, Seigneur, ce n'était pas ton jour aujourd'hui, le jour où tu viendras nous chercher. Bon, je dis, il ne faut pas focaliser, il ne faut pas être non plus tout le temps branché là-dessus. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus parce que ça m'aide à me détacher effectivement des choses matérielles. Seigneur, je t'attends. Et quand on voit, on en a déjà parlé il y a 2 ans, je crois, en week-end hein, ici, quand on voit les signes des temps qui sont de plus en plus forts, de plus en plus puissants, on se dit, mais le Seigneur n'est pas très loin. Il arrive. Restons prêts. Alors si le Seigneur nous rappelle cette situation d'étranger, c'est bel et bien pour nous orienter ou pour orienter nos centres d'intérêt au bon endroit et nous aider à nous détacher de ce monde corrompu. Où le Dieu maman règne. Quelles sont mes ambitions en tant que chrétien? Quelles sont mes ambitions? Est-ce que quand on se pose la question, mes ambitions sont plus côté professionnel ou côté spirituel? Et dans un monde aujourd'hui où dans le professionnalisme, on fait des stages, on fait des formations et c'est normal, on devient compétitif de plus en plus. Est-ce que dans le domaine spirituel, je fais aussi des formations pour devenir compétitif, entre guillemets, c'est-à-dire plus proche de Dieu, plus à même de témoigner de ma foi? Des week-ends comme ça, ça permet aussi de les encourager, bien évidemment, d'apprendre ensemble de la parole. Donc peut-être on passe beaucoup de temps à une compétitivité matérielle, on se forme, on nous pousse à nous former et à rester au top, mais que faisons-nous dans le domaine de la foi? Restons-nous au top? Sommes-nous disposés à être dans cet esprit-là? Combien de temps est-ce que je passe à méditer et à lire l'Écriture pour justement me former? Est-ce que je peux prendre du temps pour m'inscrire, par exemple, à un institut de théologie par correspondance pour pouvoir justement apprendre et me former pour être libéré de ces tentations aussi, mais aussi en même temps pour pouvoir partager ma foi? C'est une question qu'il faut se poser. Mes motivations sont-elles motivées par l'esprit de ce monde qui me demande plus pour avoir plus monde matériel. Lorsque les Hébreux sont entrés en terre promise, Dieu leur avait ordonné d'en chasser tous les habitants. On le voit dans le livre de Josué et des Juges. Pourquoi ? Il est dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. De peur que si tu les as toujours à côté de toi, eh bien, ce qu'ils font, tu sois tenté de faire comme eux, convoitise. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu se séparer, ils n'ont pas obéi à Dieu, ils n'ont pas fait de séparation, et donc leur Dieu, le Dieu des Cananéens, des Jébusiens, des Éviziens, etc., sont devenus petit à petit leur propre Dieu. La convoitise, pour que nous puissions être moins enclins à y tomber, il faut pouvoir dégager, se dégager la vue. Et Dieu nous demande de nous séparer. Alors bien sûr, on ne peut pas, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, prendre l'épée et aller casser tout ce qui est autour de nous et qui va nous convoiter demain. Non, c'est dans un monde plutôt spirituel que Dieu nous demande de le faire. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit d'une autre façon comment nous devons nous éloigner de cette convoitise. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, et à propos en particulier de l'adultère, lorsqu'il nous dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu sois borgne là, mais que tu aies la vie éternelle, plutôt que de partir dans la gêne et de tomber. Ou bien si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Donc en fait, Dieu ne nous dit pas comme dans l'Ancienne Alliance « Fais le ménage autour de toi », il dit « Toi, protège-toi. » C'est-à-dire, discerne ce qui, chez toi, est une faiblesse et qui, demain, pourrait te faire chuter dans la convoitise et éloigne-toi. Prends l'initiative, toi, de t'en éloigner et je vais t'en donner les forces. Si tu sais que là, tu as un problème, si tu sais que là, tu es tenté, si tu sais que là, tu peux tomber, alors fais tout avec l'aide de Dieu pour t'en éloigner. Vous savez, j'aime beaucoup cette image de l'aimant. Dans un aimant, vous avez, si vous imaginez, j'ai deux aimants là, vous avez un pôle nord, un pôle sud. Si vous mettez le pôle nord face au pôle sud, il se repoussera. Mais par contre, si vous inversez et que vous mettez les polarités identiques sud-sud, nord-nord, eh bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'aimant va se coller. Je ne trompe pas ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Alors, je suis en train d'avoir un doute là. Bon, vous avez compris l'image, hein? Je suis en train de me dire, non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Ouais, c'est bien, vous suivez, ouais, c'est bien. Je n'ai pas fait exprès, hein?
Non.
Bon, ok, vous avez compris l'image. Le problème, c'est que, on a tendance, nous, enfin, la nature humaine a tendance un petit peu à flirter, à se tester. Et c'est un piège. Parce que, à un moment donné, l'attraction ne se fait pas. Mais, quand on approche les aimants, alors on sent qu'il y a une attraction et à un moment donné, ça va se coller. Alors des petits aimants qu'on a là dans nos tiroirs, etc., ils sont, c'est facile à les détacher. Mais imaginez des aimants importants, plus gros. Hein. Quand c'est collé. Hein. Et à un moment donné, l'attraction devient tellement forte qu'on peut, on peut plus. Eh bien, en fait, c'est ça. La convoitise, attention. Attention, ne jouons pas avec ça. Si ton œil est pourtant une occasion de chute, arrache-le, c'est-à-dire éloigne-toi et inverse à la limite la polarité pour que tu puisses être repoussé au lieu d'être attiré. Mets-toi dans une situation de repoussé et pas d'attirance. Elle est là, il est là le combat. Donc il y a quand même une volonté hein, de pouvoir faire ainsi les choses. Attention donc au piège du conformisme dans ce monde qui tend à décrédibiliser la convoitise. Un philosophe a dit ceci, le conformisme est l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe auquel on a adhéré et à les faire sien. Et je pense que le conformisme aujourd'hui est un piège pour les chrétiens. Parce que on n'aime pas être exclu, on n'aime pas être isolé. Et en prétexte peut-être même, et c'est un piège, pour pouvoir témoigner de sa foi, soyons un peu comme les autres. Ou pour que les chrétiens, que les gens puissent être attirés dans notre église, eh bien, ma foi, proposons et donnons-leur ce qu'ils ont envie. Non. Non, le chrétien est appelé à vivre en opposition avec le monde. Le chrétien est appelé à vivre quelque part à contre-courant du monde. Et le conformisme est justement un problème qui amène à la convoitise, à faire comme les autres. J'aime beaucoup cette image aussi des saumons. Vous savez, les saumons, la particularité du saumon, c'est qu'il remonte le courant pour aller pondre ses œufs. Alors l'image n'est pas parfaite parce que quand il arrive au bout de son périple, il est complètement assèche, il pond ses œufs puis il meurt. Donc on ne va pas jusque là dans l'image. Mais il remonte le courant. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup de poissons qui remontent le courant. Donc il y a la majorité, ils descendent le courant. Et puis vous imaginez là, un saumon qui arrive et dit « Tu fais quoi toi ?»« Ben, moi je remonte le courant moi. » Moi c'est comme ça que je dois aller. C'est comme ça que j'ai été formaté. Ben oui, quelque part, nous sommes aussi, en tant que chrétiens, nés de nouveau, formatés. Dans le sens où Dieu nous demande d'être à contre-courant. Et ça, ça permet de combattre cette convoitise. Combien nos jeunes, dans ce conformisme, ou pour être comme les autres, sont tentés de faire comme leurs copains, leurs camarades. Ils sont vulnérables à ce sujet. Chacun, dit Jacques, est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Il y a des situations, il faut bien le reconnaître, qui sont parfois difficiles. Je pense à ces chrétiens qui ne sont pas pleinement heureux dans leur vie professionnelle. Les uns sont tourmentés parce qu'ils occupent un emploi dans une affaire qui leur paraît louche. Ça peut arriver. Ou qui devient de plus en plus louche. D'autres, pour plaire à un patron peu scrupuleux, mais qui paie bien, vont accepter de frauder. Conformisme. De mentir. Peut-être au téléphone. S'ils font du démarchage. De taper de fausses factures. Et la pression est grande parce que, au jour d'aujourd'hui en particulier, où l'emploi est de plus en plus rare, de garder cet emploi coûte que coûte. Et d'accepter ou de tolérer, et là on est dans la partie de l'aimant, des situations qui nous sont imposées par la hiérarchie et que nous sommes obligés, bon gré mal gré, de faire. Pas facile, hein, en tant que chrétien. Que faire? Comment réagir? Il n'est pas facile de changer aujourd'hui d'employeur, de se reconvertir, et particulièrement en période de crise. Mais doit-on céder aux mensonges et piétiner sa conscience en tant que chrétien dans une situation pareille? Je ne suis pas un donneur de leçons ici, hein, parce que la situation n'est pas facile. Mais quelle est mon espérance? Quelle est la notion que j'ai de la sainteté de Dieu? Et comment vais-je manifester quelque part ma foi dans une situation comme cela? Ne devrais-je pas justement prendre des décisions et dire « Seigneur, je veux d'abord t'honorer et je sais que tu pourvoiras ». Combien j'ai entendu de témoignages justement de chrétiens qui, se trouvant dans des situations de ce style-là, du conformisme, devoir faire comme les autres pour garder justement une certaine stabilité financière, eh bien, finalement, on a pris la décision de stopper court, d'obéir à Dieu, et on trouvait un autre emploi qui les convenait et qui était sain et juste. Mais je ne dis pas qu'il faut... Je dis que c'est pas facile, mais en même temps, Dieu honore la fidélité. Il ne faut pas oublier cela. Dieu honorera la fidélité. Jésus lui-même nous exhorte à résister à cette convoitise lorsqu'il nous demande dans la prière du Notre Père « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce n'est pas anodin cette parole. « Donne-moi aujourd'hui le pain qui m'est nécessaire ». C'est une certaine façon, une manière de combattre aussi la convoitise. J'ai ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur de me le donner. et je te promets que je te l'honorerai. C'est bien cette prière qui le montre. C'est ce qu'avait compris aussi un certain Agur qui écrit au Proverbe 30, j'aime beaucoup cette parole de sagesse, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, qu'elle soit dans mes lèvres ou qu'elle soit par mes actes. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Sous-entendu, mais j'ai besoin de personne, j'y arrive tout seul, j'ai un bon emploi, j'ai une intelligence, j'ai des diplômes, on me paye bien. Dieu, non. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Que je ne sois forcé et obligé dans cette pauvreté, finalement, d'aller dans l'injustice, dans le vol, etc. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Quel équilibre. Le pain nécessaire. Alors c'est vrai que on peut dire aujourd'hui, en France, je pense que tous ici, on est dans cette situation, nous avons même plus que du nécessaire. Et c'est une grâce. Nous apprenons avec ce proverbe ici que l'appât du gain, alimenté par la convoitise, engendre cette fausseté et le mensonge, qui est une racine de maman, encore une fois, dont nous avons parlé lors de notre première rencontre. Donc une arme efficace contre la convoitise est d'impérativement veiller à nos priorités, espérant qu'elles soient centrées sur la crainte de Dieu et sur sa volonté. D'où l'importance d'alimenter une relation d'intimité avec le Seigneur à travers sa parole, à travers l'Église, à travers les frères et les sœurs, et de pouvoir ainsi discerner ce qu'il attend de moi. Et ce ne sera pas la même chose pour les uns et les autres. Mais chacun sera convaincu de ce que Dieu veut pour lui. Le second piège au contentement, c'est l'inquiétude. Et j'aimerais que nous lisions un texte bien connu, Matthieu 6, verset 25. Sermon sur la montagne, encore une fois, où Jésus dit ceci. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Peut-être avez-vous vécu cette situation d'être à court d'argent. Ça m'est arrivé. Plus rien. On est au milieu du mois et il faut continuer. Mais avec quoi? Expérience désagréable sur le moment, mais à terme, on peut dire salutaire et enrichissante quand on garde la foi et qu'on fait confiance au Seigneur. Si, bien sûr, on n'a pas été dans une attitude, j'allais dire, d'insouciance. Et si les choses ont été faites de façon naturelle et que, ben oui, c'est tombé comme ça, là, il y a un problème. Il manque quelque chose. Mais qui a les poches vides, quelque part en tant que chrétien, doit s'attendre au ciel. Et peut-être même les non-chrétiens, parfois, se disent, ah, ben, s'il y a un Dieu, c'est maintenant qu'il faut qu'il se manifeste. Alors là, ça, c'est peut-être tenter Dieu, je ne sais. Que d'inquiétude, que d'affolement. Demain, de quoi vivrons-nous? Comment honorer les factures? Comment honorer les emprunts, etc., etc. Hein, comme un compte en banque, bien sûr, bien rempli, assure, n'est-ce pas? Sécurise, apaise. C'est la parabole du riche dont nous avons vu un petit peu aussi il y a 2 jours. Hein? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Repose-toi, bois, réjouis-toi. Le chrétien a beau savoir que Dieu est infiniment riche et disposé à pourvoir aux besoins de ses enfants, il est cependant vite ébranlé, je parle pour moi, dans sa propre assurance, lorsqu'il est réduit à céder son dernier euro. C'est une réalité, n'est-ce pas? Comment avoir la foi parfois? Et combien notre foi vacille dans ces situations? La façon dont nous réagissons, par exemple, à la perte matérielle est une bonne indication où se trouve vraiment notre trésor. Si cela nous pousse à nous agenouiller, à prier, à renoncer à cette perte, oui, notre trésor est au bon endroit. Mais si nous sommes ébranlés, si nous sommes incapables de continuer à vivre parce que ceci ou cela nous a été enlevé, si nous devenons amers et pleins de ressentiments, si nous nous en prenons aux autres, etc., etc., alors notre cœur est probablement attaché au mauvais trésor. Le système de plus en plus sophistiqué et matérialisé de notre monde éloigne de plus en plus la confiance en Dieu et donc pousse à l'inquiétude. J'ai lu dernièrement un témoignage de cette personne qui écoutait ou qui est tombée dans une discussion fortuite entre deux mamans chrétiennes dans l'église qui parlaient entre elles de leur enfant et disaient ceci. C'était des enfants qui étaient partis en colo et elles s'interrogeaient. Sont-ils bien arrivés? Ah, moi, mon petit dernier, il n'était pas en forme. Hein. J'ai hésité à le faire partir, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer s'il ne va pas revenir avec encore plus de fièvre ou encore plus de mal. Et puis cette petite phrase spontanée qui est arrivée, ces mamans qui se rendaient compte quelque part d'une situation. Autrefois, eh bien, quand on était dans une situation comme ça, entre guillemets d'inquiétude, on priait. Mais là, maintenant, j'ai été rassuré, j'ai passé un coup de fil et tout va bien, il n'y a pas de problème, ils sont bien arrivés. Puis il va mieux, ça y est, il a pris le pas dans la colo, ça y est, il s'est intégré, mon petit, il n'était pas bien, mais ça va mieux. Autrefois, on priait. Mais maintenant, on passe un coup de fil. Insidieusement, se pourrait-il que la technologie de notre monde moderne remplace la simple et vivante confiance en Dieu sans que nous nous en rendions compte. Je me surprends souvent dans l'inquiétude par rapport à mes enfants. Et au lieu effectivement d'avoir le réflexe de m'asseoir et de dire « Seigneur, prends soin. Seigneur, je ne sais pas, il s'est passé ça, mais fais. » Ben, je prends mon téléphone. Et je prends des nouvelles et en même temps, je donne des solutions. Ou en tout cas, en tant que père, je me donne le droit de donner des conseils. Tu devrais ça, tu devrais ça. Et ça me rassure. Alors, c'est pas négatif, on est d'accord. Mais c'est pas forcément le premier réflexe que de dire à Dieu, Seigneur, prends soin d'eux. Même si nous le faisons dans un cadre plus général, quand on prie pour nos enfants, bien sûr. Mais dans des situations précises, ponctuelles, où il se passe quelque chose et où nous entrons dans l'inquiétude, et ça nous arrive à tous, et ça nous arrivera à tous, je le disais encore à je ne sais plus qui, à Génon, je crois, petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Hein? Donc, petite inquiétude et grande inquiétude. Quelle est notre réflexe? Quelle est notre réaction? Et cette personne qui avait entendu ce témoignage de ces mamans-là avait écrit un petit peu quelque chose et disait autrefois, pour arriver dans un local où il y avait une réunion d'un évangéliste, et bien qu'on ne savait pas trop la route, et bien, parfois on essayait de voir et on demandait au Seigneur de nous diriger. Maintenant on allume le GPS et on y va tout droit. On me dirait, c'est bien, il faut utiliser la technologie, je l'utilise aussi le GPS, on est d'accord. Mais c'est un principe, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Ouais. Je pense qu'autrefois, effectivement, le chemin de la confiance en Dieu s'imposait plus naturellement qu'aujourd'hui. Et je pense que nous sommes en danger à cause de notre monde moderne, à vivre et à dépendre de Dieu. Et ceci a des répercussions aussi sur notre manière de vivre et de faire nos choix au quotidien. C'est beaucoup plus pernicieux, à mon sens, à mon avis, qu'on peut imaginer. C'est pourquoi on le comprend quand Jésus dit à la fin de ce texte de Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. On revient un petit peu dans la pensée de hier après-midi, Dieu d'abord, afin que vous soyez enrichis. Alors bien sûr, je fais une remarque avant de terminer, il existe une bonne inquiétude, alimentée par la sagesse, alimentée par le bon sens. En effet, je crois qu'il nous faut avoir cette petite dose de saine inquiétude, ne serait-ce que pour ne pas tomber dans l'insouciance, voire l'inconscience. On ne fait pas non plus n'importe quoi et n'importe comment. La vie de la foi n'est pas une vie d'insouciance. Ce serait aussi se moquer de Dieu. Il y a quand même un texte dans Luc qui nous dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Nous ne sommes pas cigales pour autant, nous sommes aussi fourmis. Et ça, c'est la sagesse que Dieu nous commande aussi d'avoir. Quand je suis face au bien que je reçois, à l'argent que j'ai à disposition, eh bien, je dois y réfléchir. Dieu m'a donné aussi une intelligence pour cela. Je ne fais pas n'importe quoi. Et les deux images que Jésus emploie dans le texte de Matthieu 6 sont éloquentes. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous qui êtes, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, pas le cas des oiseaux, qui sont des créatures, certes, mais ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. À combien plus forte raison ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dans Matthieu, il est question d'oiseaux. Mais dans l'évangile de Luc, il est intéressant parfois de faire ce qu'on appelle un travail synoptique, de lire les évangiles lorsque les textes sont repris par un autre évangile et de voir les différences. Ce sont des différences qui se complètent bien souvent, qui ne s'opposent pas. Eh bien, dans Luc, il est question des corbeaux. Il parle de corbeaux. Regardez les corbeaux. Il y a une précision qui est intéressante. Parce que le corbeau était un animal impur dans l'Ancien Testament. Déclaré comme tel par Moïse, il se nourrit de petites bêtes vivantes et de charognes. Eh bien, Dieu aussi prend soin des animaux qu'il considère comme impurs. C'est sa volonté, c'est ainsi qu'il les a qualifiés. À combien plus forte raison ne valez-vous pas plus qu'eux? Je pense à ce texte aussi où il est dit que Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Et c'est pour ça que les hommes en général sont d'une ingratitude effrayante. Tous, et ils ne réalisent pas cela, parce que justement, Satan règne, le prince est là, Mammon. Mais Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Dieu nourrit ceux qui même ne le craignent pas, et qui peut-être profitent aussi d'une situation. Quel amour de Dieu pour, et quelle patience de Dieu pour tous les hommes. Élie va se faire nourrir providentiellement par des corbeaux, vous connaissez ce texte, hein, durant le temps de sécheresse et de famine. Le corbeau trouve sa nourriture même au temps de sécheresse et de famine, et il en amène même au prophète Élie. Je pense à Job qui dit, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu quand ils sont errants et affamés? C'est Dieu qui le fait. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Quant à la seconde image qui est intéressante, Jésus dit considérez comme un croisement des lys des champs, n'est-ce pas, ne travaille ni ne file. Salomon, qui était un homme qui avait beaucoup, qui était riche, n'a même pas été aussi beau que les lys des champs. À plus forte raison, Dieu vous vêtira aussi de la même manière. Et là, il est précisé, gens de peu de foi. Combien notre foi est bien fragile. Cette plante symbolisée, le lys, la splendeur, n'est-ce pas, la royauté, en particulier chez nous, la fleur de lys, la puissance, la richesse. Mais lorsqu'on regarde ces deux images et qu'on lit ces textes, je pense à deux mots. La première image que Jésus donne nous parle de la quantité. Ils n'amassent rien. Amasser, c'est la quantité. Ils ne font pas d'économie, les oiseaux. Ils prennent ce que Dieu leur donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus et être fou de ne pas penser à demain lorsqu'on peut le faire. Mais la quantité, c'est-à-dire que Dieu donne ce qu'il faut en quantité suffisante. Pas plus, pas moins. Vous savez, dans l'Exode, quand les Hébreux ramassaient la manne le matin, ils devaient prendre juste ce qu'il leur fallait. Et si certains se disaient, oh, on ne sait jamais, demain, peut-être la manne ne sera pas là, prenons-en deux fois plus, eh bien, de toute façon, elle pourrissait avant le lendemain. Et Dieu impliquait et imposait la foi et la confiance en lui. Juste ce qu'il vous faut. Et encore que, on a vu que Paul parle aux Corinthiens en disant, votre superflu pourvoira aux besoins des autres. Donc il y a aussi plus que ce qu'on a besoin, justement pour pouvoir aider les autres. Et en particulier, bien sûr, l'œuvre de Dieu, par laquelle et à laquelle aussi Dieu fait avancer et touche les cœurs. Quantité. Et pour la deuxième image, nous avons un deuxième mot, c'est la qualité. Regardez comme ils sont beaux, les lys. Ils sont peut-être peu, mais ils sont beaux. Et tout est magnifique. Et Dieu dit, mais je veux aussi vous donner de la qualité. Ah, bien sûr, tu n'auras peut-être pas une Rolls Royce, hein, mais pour moi, ma qualité, ce n'est pas la tienne. Le regard que tu as sur la qualité n'est pas le même que moi, certainement, sûrement même. Mais tu auras quand même de la qualité. Quantité suffisante et en même temps qualité. Quelle puissance dans ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Et là encore, si nous prenons le temps de réfléchir et de voir ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, comment pouvons-nous aussi mettre ces deux termes dans les souvenirs que nous avons? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, toute la quantité qu'il m'a donnée et toute la qualité aussi qu'il m'a donnée. Alors bien sûr, chacun a une vie différente. Dieu sait pourquoi. À l'un, il donnera peut-être plus de quantité, à l'autre, plus de qualité, je ne sais. Parce qu'il a un plan particulier pour chacun. Nous ne nous ressemblons pas pour cela. C'est pourquoi le contentement, c'est d'accepter, sous le regard de Dieu, ce qu'il me donne, dans la qualité, dans la quantité. Et ce que Dieu attend de moi, que je donne en retour aussi, en me contentant de ce que j'ai et de ce que je donne. Sans convoiter forcément le frère ou la sœur qui a ah, ceci, il y a cela. Et c'est vrai que franchement, parfois on perd un peu son latin, hein, et de ne pas comprendre non plus les plans de Dieu. Vous avez des personnes qui naissent dans une situation aisée, qui ont des héritages à tout va, qui ont des comptes en banque bien remplis tout le temps, etc., etc. Et d'autres qui, non, ne sont pas nés dans des situations comme ça. Mais quand on est touché par la grâce de Dieu, quelle que soit notre situation, Dieu va s'en servir pour son œuvre. Contentons ce que nous avons pour que nous puissions être en paix. J'ai appris donc à être content dans les situations où je me trouve. Le contentement ne s'arrête donc pas, me semble-t-il, aux circonstances extérieures. Il doit faire avec, il doit vivre avec. Et c'est une grâce que Dieu va nous accorder si nous la lui demandons et si nous sommes ouverts à cela. C'est dans cet esprit que l'apôtre Paul nous invite à y entrer. Faisons aussi notre cette parole de David qui écrit, et c'est vrai que je l'ai cité plusieurs fois, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une parole que j'aime beaucoup parce qu'elle pose les choses et elle me permet de rester soumis à la volonté de Dieu, tout en étant conscient de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Donc, quelques questions pour terminer. Suis-je insatiable et mécontent en considérant mon salaire? Suis-je prêt à confesser mon inquiétude et à manifester concrètement ma confiance en Dieu? Voilà, simplement ces deux questions. Comment est-ce que je vis cela? Et est-ce que je me suis posé ces questions une fois? Donc c'est l'occasion de le faire. Donc peut-être pourrions-nous avoir encore un petit moment d'échange, mais avant cela, je veux encore terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons une fois de plus nous laisser interpeller par ta parole et par ton esprit qui veut vraiment nous encourager à rentrer dans cette dimension du contentement. Et Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé, j'ai voulu avoir plus parce que j'avais regardé ailleurs et je ne me satisfaisais pas de ce que tu m'avais déjà donné. Combien, Seigneur, il est bon de nous rappeler cette confiance, cette foi en toi et en toi seul, parce que tu donneras ce qu'il faut et comme il faut. Seigneur, éloigne-nous vraiment ces tentations et aide-nous à sortir de ce monde où la cupidité, où la convoitise est là et nous pousse à ne pas nous contenter de ce que nous avons. Seigneur, merci encore pour toutes tes grâces et pour tous tes bienfaits. Oui, nous voulons nous en rappeler et te bénir pour cela. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Voilà, peut-être avons-nous quelques remarques, quelques, comme hier, anecdotes ou témoignages à partager, ou questions. Non, je ne vois pas de textes qui parlent de ce genre de situation. On peut les imaginer entre guillemets à travers les textes, bien évidemment. Je crois que c'est pas négatif de vouloir améliorer entre guillemets son quotidien. Donc alors il faut savoir quels sont là les yeux. Je pense que vous parlez d'une personne chrétienne hein, qui veut hein, c'est pas anodin. Voilà. Quelle est la motivation première de cette personne chrétienne engagée qui craint le Seigneur et qui effectivement, si elle a des possibilités de pouvoir alimenter son, ou agrémenter son quotidien, en sachant que de toute façon, le plus qu'elle le recevra sera aussi et rentrera aussi dans ce qu'elle pourra redonner à l'œuvre de Dieu. Oui, moi je ne suis pas contre personnellement le fait de devoir aller plus loin, mais il faut faire attention à la réelle motivation, que ce ne soit pas vraiment pour être comme les autres, pour avoir comme les autres, il faut que ce soit quelque chose qui vienne vraiment d'une conviction de la volonté de Dieu, de Dieu lui-même. Quoi. Ben, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais... sur le fond, oui, il n'y a pas de raison. Et Dieu veut que nous soyons aussi quand même dans une situation normale, on va dire. Mais il y en a certains qui vont se contenter d'une situation peut-être plus basse au niveau social et d'autres qui vont devoir monter un petit peu, mais parce qu'ils sont conscients qu'ils font la volonté de Dieu. C'est pas si facile, hein. Il n'y a pas de réponse si facile. Ah ben forcément, si ça grève le temps parce qu'on passe à un échelon supérieur, si ça grève le temps, la pensée pour Dieu, c'est pas forcément positif. C'est pas forcément quelque chose qui va nous amener à grandir dans la foi. Donc il faut faire attention. Le cas de Daniel, par exemple, est un cas intéressant dans le sens où il a progressé, il a monté les échelons, Daniel, parce qu'il est arrivé premier ministre hein, quand même. Hein. Ou en tout cas ministre, si on peut dire, si on fait une comparaison par rapport à la France, ben, il n'a jamais rien demandé. Quoi, hein. Donc c'est Dieu qui l'a placé parce que les portes se sont ouvertes au fur et à mesure. Et je crois qu'un chrétien qui est ouvert et qui veut faire la volonté de Dieu, les portes, quand elles vont s'ouvrir, il va être convaincu que c'est là qu'il faut aller. Et en même temps, plus il va avancer, plus il aura des biens, plus il sera responsable de ce que Dieu va lui donner aussi. Donc, il y a les deux, quoi.
Hein. Alors, cette situation, c'est ce que tu as dit, je crois que le plus important, c'est la motivation. Hein. C'est comme on l'a dit hier, c'est compliqué.
Oh, il y a aussi le cas de Joseph, hein, qui est arrivé premier ministre, hein, en Égypte. Mais Dieu l'a placé dans cette situation, justement, pour qu'il puisse aider ses frères, entre autres. Donc il y a une responsabilité que Joseph a eue, qu'il n'a pas soupçonnée dès le départ. Donc il a gravi les échelons rapidement, et c'est Dieu qui l'a placé ainsi. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur notre motivation à vouloir ceci ou cela. Et cette motivation doit vraiment être en conformité avec la conviction de la volonté de Dieu. Parce que plus je reçois, plus je vais devoir aussi être responsable pour pouvoir donner un retour.
Hein, plus ça va donner, plus ça va.
Voilà, j'allais le dire. C'est ça. Mais c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit des dons spirituels comme des richesses matérielles. Voilà, donc. C'est pas forcément. Il faut faire attention, quoi. Je reviens sur ce thème de motivation. Voilà. Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est dans la volonté de Dieu ou pas?
Juste au début, quand tu parlais de. Ne nous donnera pas non plus. Je sais pas trop ce que tu as voulu dire.
Non, mais c'était dans l'esprit de celui qui sème peu, moissonnera peu. Paul le dit, de toute façon, vous êtes amené à pourvoir aux besoins des frères de Jérusalem, c'est dans le contexte, c'est le Corinthien. Sachez-le, de toute façon, si vous ne semez pas, vous ne moissonnerez pas aussi. Donc, quelque part, Paul les invite aussi à réfléchir, à dire, mais vous devez donner parce que si Dieu va vous donner un retour, mais vous ne donnez pas pour recevoir. C'est là que, en fait, l'évangile de prospérité joue bien son, entre guillemets, diaboliquement son jeu, parce que c'est très subtil de ce verset. Oui, c'est vrai que si je donne, Dieu va me donner, mais c'est pas dans ce but-là que je le fais. Mais en même temps, si je ne sème pas, je ne moissonnerai pas. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois, mais de l'autre côté.
Mais c'est pour ça que c'est.
En tant que croyant, on est dans cette économie de la grâce, hein, je sais. Même si je ne donne pas, Dieu, il est toujours fidèle.
Ben, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes aussi. On est d'accord, bien évidemment. Mais en même temps, comme on le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand je donne avec joie, Dieu va me donner aussi et ce dont j'ai besoin, ça sans aucun problème. Mais si je ne donne pas, je suis dans un esprit plus d'égoïsme, en fait. Et ce n'est pas sain. Voilà, enfin. Mais je suis conscient que c'est pas si évident, hein, à exprimer.
J'ai lu ce matin au culte personnel un Galate, bon, je fais la. Avoir retour, on est parti
parler de Dieu, les sur. Oui, dans l'esprit, on est d'accord, mais dans le contexte premier du texte de Corinthiens, on est dans le contexte matériel. Voilà, c'est pour ça que ça peut nous déstabiliser un petit peu, parce que c'est dans ce contexte-là que Paul le dit. C'est pas d'un. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, dans un ensemble, on peut donner autre chose que de l'argent, bien évidemment. Et on reçoit aussi, parce qu'on a donné du temps, ça c'est clair.
Ce que Dieu dit d'autres compenses n'est pas dépassé le cœur et il en est sûr.
C'est ça, tout à fait.
Au-delà des réseaux matériels.
Tout à fait. D'où le texte de amassez-vous dans le ciel, parce qu'il y a quelque chose qui s'amasse, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie en fait. Hein. C'est pas clair cette histoire, amassez-vous quoi? Qu'est-ce qui va rester en fait, hein, dans le ciel? Voilà, on sera peut-être surpris. Agréablement, j'espère. Oui.
Et j'ai de partager ce qu'il nous a donné.
C'est ça. Nous sommes juste des intendants, je l'ai dit hier après-midi, oui. De bien que nous avons. Ça, c'est la libéralité, l'esprit de libéralité de la nouvelle alliance. Oui. Donc, on est. Voilà, qu'as-tu que tu n'aies reçu, hein. C'est oui. Notre texte aussi qui le dit. Voilà, donc à ce titre-là, ça ne m'appartient même pas.
Oui.
C'est pas moi, puisqu'on me l'a donné. Enfin, ça m'appartient puisqu'on me l'a donné, mais je suis gérant, responsable.
Et la deuxième pensée, c'est par rapport à ce que notre frère disait pour avoir une échelle sociale un peu plus haute. Et dans la Bible aussi, il nous dit que je vous appelle à être la tête et non la queue.
Alors, il faudrait voir le contexte de ce texte. Je fais attention là.
Oui.
Je ne sais pas dans quel texte.
Ça rejoint aussi la tradition de Joseph.
Oui, mais tout le monde ne sera pas un Joseph.
Oui.
Eh oui. Et tout le monde ne sera pas un David. Donc, je dirais même que la minorité sera Joseph et David.
Oui.
Eh oui. Donc, mais à ceux qui sont de. Ça. Mais vous savez, il y a un chrétien aux États-Unis mais c'est un gars peut-être que vous connaissez, il a créé une grosse boîte, mais je me souviens plus laquelle c'était, qui a dans le principe de la dîme en fait, hein, il donnait sa dîme, etc.
Il a créé une caterpillar.
C'est ça. Non mais c'est celui à un moment donné qui a dit, maintenant je vais garder la dîme pour moi et je vais donner 90%.
C'est lui. Mmh.
Voilà, vous avez connu ça. Bon ben voilà, ben lui il peut le faire. Je veux dire, parce que ceux qui considéraient dans sa libéralité sa dîme suffisait largement pour vivre. Donc les 90% de ses revenus, il les donnait à l'œuvre de Dieu. Bon, ben tout le monde n'est pas comme ça. Mais Dieu a placé cet homme avec beaucoup d'argent, avec justement cet esprit de sacrifice, entre guillemets, sacrifice, enfin, de consécration plutôt à Dieu, où il peut aider des œuvres énormément, quoi. Mais comme le dit Dieu dans Malachi, à moi l'argent, j'en fais ce que je veux, je le distribue à qui je veux. Et pour son œuvre, Dieu sait très bien qu'on a besoin de moyens aussi. Donc il va susciter et faire en sorte que des chrétiens aient beaucoup d'argent pour qu'ils puissent eux aussi donner beaucoup aux œuvres. Mais la majorité sont des chrétiens, entre guillemets, lambda, où nous donnons, ce que nous avons sur le cœur à donner, mais ce n'est pas des grosses sommes. Mais accumuler, ça fait des grosses sommes, d'accord? Donc voilà, c'est chacun qui doit...
Ce qui est important, c'est de savoir que chacun à son niveau a reçu quelque chose.
Voilà.
Et c'est,
voilà.
On rejoint le sujet, là, le contentement, accepter ce que Dieu nous a donné,
c'est
et
ça.
Comment je peux partager ce que Dieu me donne. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Sans convoiter ce chrétien qui, lui, donne 90%, après tout, ben tant mieux. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est... Alors, moi, en tout cas, je pense à Agé. Je ne sais pas si c'est Amos aussi, mais Agé est très clair. À un moment donné, ils entrent dans le pays et puis Dieu leur demande de construire le temple. Et puis au bout de 16 ans, je crois, ils s'arrêtent de construire le temple et ils construisent leur maison. Parce qu'ils se sont dit, zut, après tout, on n'a pas de maison. Donc Agé, il percute de la part de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez oublié la maison de Dieu et vous construisez vos propres maisons, en plus vous mettez des bois, c'est lambrissé, c'est très joli, etc. Vous êtes en fait des égoïstes, vous ne pensez pas d'abord à Dieu et vous pensez d'abord à vous. Voilà, donc c'est un peu aussi dans l'esprit de l'argent, quelque part. Hein. C'est bien d'avoir des maisons, on a de jolies maisons, c'est très bien, mais l'œuvre de Dieu, je ne parle pas de l'église de plaisir, hein, mais l'œuvre de Dieu en général est-elle pourvue alors que vous êtes aussi déjà bien installé, entre guillemets. Voilà, c'est un peu le conformisme matérialiste. Voilà, voilà. Tout est équilibre, hein, bien sûr, et il faut, c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup de sagesse et surtout discerner, je l'ai dit, cette volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on n'a pas à dire à l'un ou à l'autre, tu dois, tu fais. Non, c'est chacun qui est responsable de ce qu'il reçoit et de ce qu'il donne. Oui.
Est-ce que le contentement, je vois la notion de renoncement, c'est-à-dire, parce qu'on se contente, est-ce qu'on renonce éventuellement?
Pour moi, forcément, si tu te contentes, c'est que tu renonces à quelque chose. Ah oui, automatiquement, parce que si tu ne renonces pas, tu tombes dans la convoitise.
Donc tu peux renoncer à progresser dans ton travail, par exemple.
Disons que, oui et non, j'en sais rien en fait, je sais pas, parce que quelqu'un se contentera d'une situation parce que son travail lui plaît, on va lui proposer un boulot plus important ou une responsabilité par exemple de directeur, il la refusera parce qu'il ne se sentira pas d'eux, et ce sera pas une question pécuniaire à ce moment-là. Il dit non, moi je ne me sens pas d'être directeur, je préfère rester ouvrier par exemple, même si je gagne moins, mais je suis à l'aise avec ce boulot. Je veux dire, c'est très difficile de dire à quelqu'un tu dois ou tu dois pas dans ce domaine-là.
C'est pas systématique en
fait. Ben non, on peut pas généraliser. On peut pas généraliser.
Là, dans le renoncement, Eric, je pense qu'il n'y a pas de contrainte.
Moi, je dirais plutôt l'inverse, non? C'est la jalousie qui suscite la convoitise. Je commence par autorisation.
Ouais, moi, je vais avoir votre avis là-dessus.
C'est souvent parce que je peux jalouser que je vais être poussé à convoiter pour équilibrer ou avoir, ou je ne sais pas. Convoitise, c'est vouloir ce que les autres ont, par définition, quelque part. Ou en tout cas, c'est vouloir plus que ce que je peux avoir, ou ce que j'ai besoin. Convoitise, c'est prendre ce que j'ai déjà et qui doit me suffire. On pourrait donner plein de définitions hein, sur la convoitise. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est un petit peu à cet esprit que vous posez la question, mais. Mais la jalousie, forcément, est liée à la convoitise. Hein. Je crois. Ouais. Je voulais juste, pour terminer, vous préciser une chose, c'est que dans toutes les décisions et dans tout ce qu'on a dit un petit peu, il y a un mot qui est important, c'est le mot paix. Si j'ai la paix dans ce que je dois faire, dans ce que je dois décider, parce que j'ai demandé à Dieu, alors il faut foncer. Je dois accepter un poste parce que je vais être mieux payé, je prie Dieu pour ça. Si Dieu me donne la paix, il faut y aller. Et Dieu se servira de ça pour son œuvre. Vous savez pas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Si je dois rester dans la situation où je suis, si je dois renoncer à un meilleur salaire, parce que bah, il peut y avoir quelque chose, des responsabilités que je ne peux pas porter, Seigneur, si j'ai la paix, je reste dans cette situation. Vous comprenez? Et c'est ce que dit encore une fois Paul aux Philippiens, je terminerai par ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Recherchons la paix de Dieu dans toutes nos décisions. Serein, il faut foncer. S'il y a un moindre petit truc, attention, réfléchissons encore, ce n'est pas le moment. Voilà. Je crois que ça peut nous aider dans les décisions qu'il faut qu'on prenne. Ah, à propos, oui, j'oublie.
Donc, on va faire passer la journée, donc aujourd'hui, on va nous offrir une offrande pour l'église, donc l'offrande habituelle chaque dimanche, et puis une offrande pour Frédéric, qui nous a tant béni aujourd'hui au travers de son vivant. Hein. Donc, retenez juste l'offrande pour vous les charges de l'église, et puis également aussi permettre que l'église puisse un jour avoir ce bâtiment. En général, un jour, on pourra effectivement avoir notre bon bâtiment pour en parler d'aide, il y a pas mal de difficultés à ce moment-là, si vous souhaitez. Hein. Donc, voilà, on fait la seconde fois.
Bon, en tout cas, je profite pour vous remercier pour votre invitation à nouveau. Hein, voilà. Merci pour votre soutien aussi à mon ministère. Et que le Seigneur aussi continue de vous enrichir dans sa grâce. Merci.
Donc le repas est en 15 minutes.